Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue à toutes et tous dans cette nouvelle émission destinée aux athlètes olympiques. Après le témoignage ces dernières semaines d'Omar Bouyoucef, médaille d'or Norvège, médaille de bronze aux Jeux du Japon, je reçois Alex Brunet qui a fait partie de la même équipe de France de ski de fond assis, qui a raflé 4 médailles aux différents Jeux olympiques, Jeux paralympiques. 2 en or, 1 en argent et 1 en bronze. Toutes ces médailles ont ponctué sa carrière d'athlète de haut niveau et pas seulement dans le ski. Alors Alex, qu'est-ce qui vous a poussé hors de vos limites dans les années, je dirais, 90? Je vous ai connu jeune chien fou, qu'aucun défi, en fait, n'arrête. C'est ça?
Alors moi, j'ai eu mon accident en 95 et nous, on s'est connus en 97 quand on a préparé une émission avant d'aller aux JO. Donc 98, les JO à Nagano, ça remonte, ça fait bientôt 28 ans cette année. Et donc en plus, c'est l'année olympique là et je te retrouve, c'est génial. Et donc, qu'est-ce qui m'a donné la rage, si tu veux, quand j'ai eu mon accident de ski, hein, j'ai eu un accident de ski de fond lors d'un entraînement. Je suis tombé, je me suis pris un pylône dans le dos, donc je me suis retrouvé paraplégique. Et quand tu as 20 ans, tu rebondis très vite. Tu n'as rien décidé de ta vie, en fait. Donc, tu es là, tu es content de ne plus aller au lycée. Ça, c'était une délivrance, tu n'imagines même pas. Et je pouvais m'adonner enfin à ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire faire du sport. Et donc, du jour au lendemain, tu te retrouves paraplégique, tu fais tout le cursus, tu sais, de rééducation. Et une fois que tu es sorti de là, tu es libre. Et j'ai intégré l'équipe de France très vite parce qu'il y avait une journée handisport et organisée par Handicap Défi, d'ailleurs. Et j'ai rencontré un gars en fauteuil roulant. Et le mec, il était en équipe de France d'athlétisme, j'allais dire, de ski. Et il m'a convoqué à faire un stage avec l'équipe de France dans les Alpes. Et j'ai de suite mis le pied à l'étrier et j'ai trouvé ça génial.
Enfin, le pied à l'étrier, c'est façon de le dire, parce que c'était assis. Mais
ah, oui, c'était
ça,
assis.
Je raconterai après, ouais. Ouais. Mais vas-y, je t'ai coupé bêtement.
Et, non, t'inquiète, c'est bon, on échange. Et c'est, je me suis retrouvé assis. Et bizarrement, l'année d'avant, j'étais justement au glacier de Tignes, en train de skier, debout hein, avec mon équipe.
Valide, hein,
parce que moi, j'étais meilleur Pyrénéen en ski de fond, j'ai gagné pas mal de courses. Et là, je me retrouve avec l'équipe de France en fauteuil roulant. Alors que l'année d'avant, je les voyais skier. On mangeait dans le même resto. Donc nous, on était assis là, debout, et on voyait ces petits mecs en fauteuil roulant, en train de s'éclater. Putain, et l'année d'après, je suis avec eux. T'imagines le destin ?
Mais oui, c'est quand même assez dingue. Mais qu'est-ce que tu t'es dit ? Qu'est-ce que tu te disais quand t'étais debout et qu'est-ce que tu t'es dit quand t'étais assis ?
On les admirait. On disait, putain, comment c'est possible que les mecs, ils montent des côtes comme ça à la force des bras, en plus à 3000 mètres là-haut, au glacier ? T'as quasiment pas d'oxygène.
C'était les premiers jeux, ça ?
C'était entre 92 et 80. Il venait de... Moi, j'ai eu mon accident en 95, donc si tu veux, en 94, j'étais là-haut. Il devait préparer les Jeux de Lillehammer. Donc j'ai vu les Didier Riedlinger, tu as vu qu'on fait 4 médailles d'or.
Didier Riedlinger.
Tu te rappelles ? Et Omar, qui a fait sa médaille d'or aussi en biathlon.
C'est ça.
Ils ont gagné tout ça à Lillehammer. Et moi, je les ai rencontrés cette année sur le glacier, en préparation. Tu vois, moi, je les ai rencontrés vers le mois de septembre, octobre, je pense. Et je ne savais pas que ces mecs allaient être champions, tu vois. Et c'est l'année d'après, quand je les ai retrouvés, qu'ils m'ont expliqué leur palmarès. Incroyable. Et donc moi forcément ça m'a donné envie, tu vois. Et moi j'adore le ski, j'en fais depuis que j'ai 3 ans. Et j'ai saisi l'occasion, j'en ai profité. Et de là, bah, je me suis entraîné comme un malade. Je me suis entraîné aussi vers Luchon, le col de Peyresourde, tu sais où passe le Tour de France. Et là je le faisais tous les jours en fauteuil de ski à roulettes. Donc je mettais mon fauteuil de ski sur des skis à roulettes, comme font tous les athlètes l'été pour s'entraîner. Et je me tapais le col une fois par jour, en faisant des séances de fractionnés, de vitesse et tout. Avec du poids dans mon fauteuil. J'avais lesté tout ça à 8 kilos et j'avais mis des petits bracelets lestés à 500 grammes, tu vois. Je peux te dire que quand j'ai enlevé tout ça, j'ai halluciné, quoi. Et donc, ça, c'était la fameuse année 97.
Attends, ça, c'était pour...
pour préparer les
JO. Devenir musclor, quoi.
C'était, ouais, ça, c'était carrément. C'était en 97, c'était l'été 97 pour préparer les Jeux. Et donc, quand j'arrive en 98 sur les pistes de ski...
Mais avant d'arriver là...
Oui, vas-y.
Le matériel à roulettes, là, c'était quand même très, très prototype. Ou alors, t'arrivais juste après...
Non, je l'avais déjà en valide, ça.
Ah, tu l'avais déjà en valide ?
Oui, quand je faisais du ski valide, j'avais déjà ça. Donc, je les ai juste adaptés. J'ai rajouté une fixation derrière. Parce que le fauteuil de ski, il y a 4 fixations. 2 devant et 2 derrière. Et pour permettre au fauteuil d'être stable. Donc, j'ai bricolé tout ça. Et vas-y, en avant. En avant sur les cols. Et c'est là que tu gagnes tes victoires. C'est à l'entraînement, tu le sais. Hein. Il faut vraiment en baver et se faire mal. Et lorsque j'arrive en Coupe du Monde en 97, donc l'année avant les JO, mais je suis loin des meilleurs. Tu vois, sur une course de 15 km, je me prends 12 minutes. C'est énorme, c'est un gouffre. Et un an après, l'année des Jeux, sur une course de 10 km, je mets plus d'une minute au deuxième, tu vois. Donc il y a eu un effort fait, accompli, grâce notamment à mon entraîneur Yves Maréchal.
Hein, le fameux Marèche.
Le douanier, là, qui a été lui-même athlète hein, de haut niveau. Hein, attention, pendant sa jeunesse, il était en équipe de France valide hein, de biathlon. Et donc, c'était notre entraîneur. Putain, il nous
un
a fait
acharné,
progresser.
Hein.
À lui et Claude Terrasse. Ah ouais, lui et Claude Terrasse, ces deux-là, ils nous ont tirés au plus haut. Et ils ont été vraiment nous amener à un niveau qu'on n'imaginait même pas. Parce que moi, quand je m'entraînais, quand j'étais valide dans les Pyrénées, tu sais, on s'entraînait à l'ancienne. Hein, on faisait à l'arrache, on n'avait pas vraiment de plan spécifique, on faisait pas de test de VO2 max, on faisait du fractionné mais sans vraiment récupérer correctement, on n'avait pas de programme de préparation, de surcompensation, tu vois, enfin c'était vraiment des touristes, tu vois. Et là, quand je suis arrivé là avec cette équipe de pros, on avait le cardio, on faisait les tests de récup, on allait déjà à l'époque dans les saunas et ensuite se jeter dans la glace pour récupérer, on faisait des tests de vitesse avec des cellules pour les skis, tu sais, pour voir qui glissait le mieux et tout. On était vraiment avec des pros. Et quand tu es entouré comme ça avec une équipe de dingue, mais tu vois les résultats que ça donne, quoi.
Et puis surtout, Marèche, rien ne l'arrêtait. Le défi était permanent, en fait.
Ouais, que ce soit avec nous, les fauteuils ou les amputés ou les aveugles que tu as pu connaître, tu vois.
Ouais,
mais il a transcendé tout le monde. Il avait une énergie dynamique énorme, ce gars.
Énorme.
Et il nous a transmis vraiment sa passion. Et il nous a fait tirer, mais vraiment, parce que lui, c'était un biathlète. Donc, on allait chez lui à Mout, on faisait des stages là-bas.
À Mout, dans le Doubs, dans l'endroit le plus froid de France.
On était hébergés chez des amis à lui, qui souvent nous faisaient dormir dans leur maison, tu vois. C'était génial.
Ouais.
Ou alors, on allait dans des gîtes, on allait se mettre auprès du feu, on allait manger du fromage et tout. Enfin, c'était génial. On a passé des stages incroyables.
Très bien. Incroyable. Et incroyable de joyeuseté, de rire et d'effort mêlés, en fait. Hein.
Mais carrément. En plus, dans ce petit village où on avait vu naître Fabrice Guy, qui était champion olympique de saut à ski, de combiné nordique. On était dans son petit village à lui, un petit fief du Doubs, l'endroit le plus froid de France. Hein. Tu sais que là-bas, on a eu des moins 34 degrés quand même. Hein. Mais on était bien, c'était super. Petit village, tout le monde nous connaissait.
Des pentes impossibles, complètement verglacées, que je me rappelle vous avoir vues, vous. Oh, ouais. Mais qui ne vous arrêtaient pas, en fait. Il fallait trouver de la débrouille, quoi. Une corde, un truc, n'importe quoi, les bras,
ouais,
et c'était parti.
Ouais, des fois, quand on
les
était
fauteuils
hébergé,
qui tombaient, qui glissaient.
Les hébergements, c'était pas du tout adapté. Même de nos jours, t'as vu, on est à la rue. Alors, il fallait se débrouiller. Et des fois, ouais, on mettait des cordes parce que c'était trop raide. Le fauteuil glissait, on n'a pas de pneus de neige, il fallait monter. Il y a même des fois, on a dormi dans des hôtels où il y avait des escaliers. Alors, on a mis des portes en travers des marches. On pouvait descendre, mais pour remonter, c'était impossible. Alors, on a même tiré des lances incendies, on a accroché aux barrières, aux rampes, et pour le faire une corde pour pouvoir remonter à 2h du matin quand on rentrait de boîte de nuit, tu vois.
Ça aussi, ça faisait partie de l'entraînement avec Marèche, hein, la boîte de
avec
nuit.
Avec Marèche, avec Didier, l'Alsacien.
Oh là là.
Lui, il était fort. Lui, il pouvait passer une nuit en boîte de nuit, à dormir 2 heures et gagner une course le lendemain.
C'est pour ça qu'il ne sentait pas les brûlures quand il se rapprochait trop du poêle et qu'il se brûlait les jambes, qu'il ne sentait rien.
Tu m'as rappelé cette anecdote hier, c'est vrai, ça m'est revenu à l'idée. Ouais, il foutu devant le feu, le pauvre, pour se réchauffer et les jambes, elles ont cramé, quoi.
Il l'a pas senti.
Il l'a pas senti. C'est le problème du paraplégique ou l'avantage aussi. Tu peux te faire mordre par un chien, tu le sens pas. Hein. Donc ouais, c'était des belles années, mais tu vois, après, on s'est pas revus. On a fait chacun notre vie. Moi, j'ai fait du basket en équipe de France, de l'athlétisme en équipe de France. Je me suis mis au tennis, donc j'ai beaucoup bougé après. J'ai rebondi à chaque fois, parce qu'après les JO...
Les JO de Nagano, on est bien
ouais,
d'accord.
Ouais, de
hein.
Nagano en 98.
Donc là où Omar avait obtenu la médaille de bronze.
En relais, ouais, avec Didier et moi.
Et toi ?
Moi, j'ai fait une médaille d'or en biathlon le premier jour. Première fois de ma vie que je gagne un biathlon. Putain, génial. 2 jours après, je fais deuxième aux 5 km. À 3 secondes, j'ai dit, mince Alex, là, t'as fait une petite erreur. Mais bon, mon ami russe, il était tellement fort aussi. Donc, il méritait la médaille. Et donc, 2 jours après, sur 10 km, je remets les pendules à l'heure. Je montre que c'est moi le plus fort. Et donc, je gagne ma petite médaille d'or en 10 km. Et après, 2 jours après, on en gagne une en relais. Un truc exceptionnel. On n'avait jamais gagné de médaille d'or. Didier avait eu en plus sa médaille d'argent incroyable au biathlon. Et Omar, c'était le seul qui n'avait pas de médaille. Donc, on se devait, tu vois, quand on était 3 fauteuils, de ramener une médaille pour lui. Et la médaille collective, elle était énorme. Franchement, ça vaut largement une médaille d'or, Sandrine, je te le dis. Hein.
Mais c'est pour ça que j'avais fait le déplacement jusqu'à Nagano, hein, je te rappelle. Hein. C'était un des reportages les plus durs de ma vie, presque.
C'est vrai ?
Le décalage horaire, pas un mot commun, pas
ouais, c'est ça.
Une culture mais à l'opposé de la mienne. C'était passionnant, mais très, très dur. C'était trois sujets que j'avais vendus pour TF1. Enfin, vendus. Quand je dis vendus, c'est la diffusion qu'on vend. Hein.
Ouais, c'est plus là que t'es millionnaire, je me rappelle.
Ouais, c'est ça, ouais. Et c'était dingue. Le pari dingue, mais réussi.
Carrément.
De faire sortir un peu, quand même, les Jeux paralympiques sur les médias. Parce qu'à l'époque, c'était quand même...
C'était dur. Hein. Même à Lily Hammer. Moi, je savais même pas que Didier il avait eu 4 médailles d'or. Pourtant, c'est exceptionnel, 4 médailles d'or lors des Jeux, tu vois. Et on ne savait pas de tout ça. Et les premiers Jeux, c'était 92, c'était Teen, tu vois. La première fois qu'ils avaient une équipe de France de fauteuil, donc tu vois. Et 6 ans après, ils ont fait un chemin de dingue. Hein.
Un chemin de dingue. Incroyable, et c'est pour ça que moi, je pensais, suite aux derniers événements donc, qui entouraient les Jeux paralympiques à Paris, que ça avait fait un progrès. Des pas de géants. Et tu me dis presque l'inverse. Et ce sera d'ailleurs le sujet de notre prochaine émission. Mais terminons là-dessus déjà sur celle-ci.
Ouais, mais carrément. Après, c'est vrai que maintenant, les Jeux sont médiatisés. T'es d'accord ? Pendant 15 jours, on nous voit. C'est cool. Ils mettent des émissions. Ils brassent de l'argent parce que figure-toi que les entrées sont payantes aussi. Donc, ils font pas mal de fric là-dessus. Mais une fois que tout ça, c'est fini, mais tu les vois plus, les athlètes. Hein. On passe pas à la télé le long de l'année. Hein. Tu ne vois jamais. Hein. Le seul sport qui est bien représenté en France, c'est le basket, parce que maintenant, ils ont mis une chaîne qui est dédiée à ça. Donc, tous les matchs de première division de basket sont diffusés. Tu les vois en direct ou en replay. Mais après, les autres disciplines, putain, ça reste encore à des années-lumière, quoi. Et c'est ça qui est dommage, quoi.
Parce que ça n'intéresse pas les sponsors, entre autres.
Ouais, tu ne renvoies pas. On ne touche pas assez de monde. Et pourtant, il y a 5 millions d'handicapés en France, tu vois. Ça fait pas mal, sur 70 millions.
Et puis,
donc on touche quand même une petite majorité. Hein.
Ça ne toucherait pas que les non-valides, en plus, c'est ça l'intérêt. C'est que vos performances, elles pourraient complètement toucher le monde valide également.
Mais c'est le cas entièrement. Moi, mon oncle, il est un peu dans l'handisport du fait que je suis handicapé, tu vois. Mais il a été voir le CC Foot et le foot cet été au JO de Paris. Il a trouvé ça exceptionnel. En plus, les Français, ils ont fait des matchs de dingue. Et donc, les gens ont bien accroché, tu vois. Et c'est surtout l'état d'esprit. Il y a un état d'esprit hors norme, tu vois. Les mecs, ils sont amis avant tout. Ils sont liés par un handicap tous. Ils ont vécu tous une histoire difficile avec leur famille, eux-mêmes. Et quand tu concours contre un gars qui est handicapé, tu sais déjà qu'il a gagné une belle victoire pour en arriver là. Et tout ça, on le respecte. Et donc, il y a vraiment une fraternité incroyable. Et pourtant, on est des concurrents, tu vois. Tu vois des sports où les mecs se détestent. Ils peuvent pas se saquer, tu vois. Mais là, en l'occurrence, en handisport, on est comme des bikers. Tu vois, les mecs, ils sont tous en train de se saluer quand ils se croisent en moto. Ben nous, c'est pareil.
Bon.
Et on retrouve cette ambiance aussi lors des Jeux.
Exceptionnel. Fraternité qui a peut-être disparu dans beaucoup d'endroits.
Oh ouais.
Notamment au sport. On la retrouve la semaine prochaine.
De quoi ?
La fraternité, ouais. La suite.
Ouais,
la suite
j'espère.
Avec,
ouais, carrément.
Avec toi, Alex.
Ouais.
Alex Brunet, il faut quand même le préciser.
Ouais.
Voilà, bon bah à la semaine prochaine, et puis on parlera aussi des futurs JO, hein, puisqu'ils auront lieu du 6 au 15 mars, les Jeux paralympiques. Donc voilà, à la semaine prochaine. Merci.
Ça roule.